Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café.
Yay, t'as pris ma phrase!
J'ai dit comme faux, j'hésitais en disant, ok parfait. Ouais. Yay, je suis votre animatrice Catherine, et comme toujours je suis avec l'incroyable, l'irremplaçable, la formidable, je sais trop un autre mot, able, Audrey.
Bonjour!
You are the one. For me, formidable. Voilà.
Je pensais que t'allais me chanter You are the chosen one.
I am the chosen one.
Non, c'est
loving vrai. Him is fun. I love the chosen one. Not as much as me. Non, c'est pas ça que je voulais chanter. Bienvenue.
Merci.
Bienvenue dans mon sous-sol.
Ah, oh, il est toujours aussi beau.
Il fait moins frais que d'habitude,
c'est beau,
me
beau panel
semble.
De bois.
Ben, c'est beau! Ben,
moi, je trouve qu'il fait chaud dans ton sous-sol. Je m'habille toujours en
oui?
couche.
Oui? OK, ben, c'est une maudite bonne idée. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de choses terribles.
Absolument.
Qui va inclure un palmarès de choses terribles.
C'est exactement. Bon samedi matin!
On rira pas dans mon prochain épisode non plus. Fait que je sais pas c'est quand qu'on va rire. Un jour.
On fait quand on va faire les 2 minutes d'un mauvais téléroman.
Ah oui, absolument. Ah, je peux-tu le spoiler déjà? Ouais. C'est comme une accroche, tu sais.
Ouais.
Le monde va se dire, hey, je vais rester jusqu'à la fin pour entendre Catherine résumer le téléroman 5e rang avec Maude Guérin.
Exactement.
Voilà, c'est ça, m'a offert à la fin.
Et voilà. Mais
en attendant, on va parler de café.
Exactement.
Parce qu'on en présente toujours un.
Mm-hmm.
Fait que, ben oui, vous le savez, là, je sais pas pourquoi je résume ça, là, c'est comme... Mais c'est pour les nouvelles personnes,
pour les
bonjour!
Nouvelles personnes, parce qu'il y a des nouvelles personnes.
Bienvenue, ben oui, des fois t'embarques.
Faut qu'elles se sentent accueillies.
Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce podcast? Que se passe-t-il?
Mon Dieu.
Fait que là, c'est ce qui se passe. Au début, on présente un café, ensuite on parle de crime, on pogne les nerfs, on braille, on rit, puis à la fin, on rit.
Et voilà.
Et voilà. Donc aujourd'hui...
C'est un beau programme.
On sait... Là, c'est ça qu'on se demandait, là. On a reçu une boîte de... Third Wave, qui est un service d'abonnement café. Puis là, depuis, on le recevait encore. Puis là, on se disait, ah, la personne nous a juste abonnés pour toujours, c'est donc bien généreux. Mais là, Audrey vient de se rappeler que peut-être que c'est elle qui a mis sa carte de crédit, puis que finalement, c'est nous autres qui payent pour le café.
Puis après, Audrey se demande pourquoi elle a un crédit comme pas génial.
Ah! C'est dur de keep track de... Pour vrai, j'ai entendu une
Girl
publicité...
Max. Yeah!
J'ai entendu une publicité d'application qui te permet de, comme, suivre tous les abonnements que t'as, puis j'étais comme, mais c'est qui a besoin de ça? Puis là, j'y pensais, puis j'étais comme...
Moi,
ouais.
Définitivement moi, parce que l'autre jour, je regardais ma carte de crédit, puis j'étais comme... J'ai jamais regardé une saprée affaire sur Apple TV.
Oui.
Pourquoi je paye pour Apple TV?
Ben, c'est ça. Hier, j'ai commandé des couches sur Amazon.
Oh!
Oh! Puis là, après ça, juste avant de les commander, j'ai eu la présence d'esprit de me dire « Je m'étais pas comme abonné à des couches pour avoir un rabais. » Et oui, j'avais fait ça, mais je voulais plus acheter la même sorte, fait que j'ai annulé mon abonnement. Mais moi aussi, j'aurais besoin de l'application pour keep track de mes abonnements.
Ouais.
Donc, le café qu'on vous présente aujourd'hui, qui nous a peut-être été offert par Perle, mais on n'est pas sûr.
On merci, t'aime pareil, Perle.
Ben oui. Surtout quand on t'a rencontré dans la vraie vie, tu sais, c'est facile.
On a été prendre un verre avec toi.
Oui!
Quand est-ce qu'on retourne prendre un verre avec toi?
Ben là, tu sais, là, on peut mettre une face sur...
Une belle face.
La boîte. J'allais dire la voix, mais non, c'est pas juste ça. Une belle face. Donc, c'est le café Total Eclipse of the Heart. Non, juste Total Eclipse. Qui vient du torréfacteur Discovery.
Discovery.
Oh boy, j'ai été loin.
Discovery Channel. De tout.
Non! Je détestais tellement cette chanson-là. Quand j'étais petite, ça me rendait mal à l'aise puis je comprenais même pas de quoi ça parlait.
Tu savais qu'il fallait pas que t'aimes cette chanson.
Non, je savais que c'était quelque chose qui devait me rendre mal à l'aise.
Voilà.
Donc, c'est le café Total Eclipse du torréfacteur Discovery. Ça a été torréfié à Victoria.
Ooh.
En British Columbia. C'est un café qui vient de... C'est une double origine. Pérou-colombienne. Du Pérou et de la Colombie. Je sais pas si c'est comme ça qu'on joint ces mots-là ensemble. Ça vient de la région du Huila et de l'Amazone.
Ooh.
Et de c'est des variétés, plein de variétés ensemble. Bourbon, qui est ma préf. Catmore, que je sais pas c'est quoi. Catoura, qui est une autre de mes préfs. Patché, que je sais pas c'est quoi. Puis Tipica, qu'on aime. Tout le monde aime Tipica parce que c'est typique.
Exact.
Et c'est un café lavé-lavé.
Savez-vous
ça, Bonnie? Café... Oui. C'est qui chantait ça?
Martine Sinclair.
Encore?
Eh oui.
Martine Sinclair chante toutes les chansons. Donc, c'était un café qui avait des notes de chocolat noir, de pacane grillée et de caramel au beurre.
Oh.
Nous, on l'avait déjà moulu.
Oui,
right?
Il arrivait
c'est
déjà
ça.
Moulu.
Il arrivait déjà moulu pour faire les espressos.
Parce que t'as un enfant, puis je me dis comme, c'est pas facile ça.
Ben non, mais écoute, tu comprends même pas. Là notre moulin à café, il a pété. Puis là, j'ai acheté un nouveau moulin à café. Puis là, je vais faire du placement de produits qu'on n'a même pas de commandite. J'ai acheté un moulin à café Chardor avec 35 différentes possibilités de mouture. 35?
What?
Non, mais c'est incroyable. Puis au début, je me disais, c'est trop. Mais en même temps, c'est magnifique parce que, tu sais, il y a, mettons, 10 moutures différentes. 10, pour vrai, moutures possibles pour faire ton espresso. Mais là, il y en a que c'est trop fin. Puis tu te dis, qu'est-ce que je ferais avec ça? Puis après ça, je pensais à ça. Puis je me disais,
l'aéropresse?
Oh, ben oui, tu pourrais faire de l'aéropresse, mais tu pourrais aussi juste, tu sais, saupoudrer ton café sur un tiramisu. Là, ce serait la parfaite mouture pour. Fait que là, on a dû jouer avec.
Oh,
je sais. Mais en tout cas, il est incroyable. Fait qu'on a un nouveau moulin à café. Mais celui-là, il était déjà mouliné. Bon. Et des notes de chocolat noir, pacane grillée et caramel au beurre. Ça goûte pas vraiment si sucré que ça. C'est une torréfaction qui est assez foncée. Fait que c'est quand même un goût qui est velouté, puis un café qui est beaucoup plus agréable que le café du Tim Hortons à boire le matin.
Ben, la barre est basse en esti pour Tim Hortons.
Non, mais je voulais faire une... je sais pas, je voulais vous donner une comparaison, là, faire ça sur un continuum du café.
Ouais,
fait que, oui, non, c'est ça, c'était un café qui était... C'est vraiment doux, velouté. Il y a une torréfaction assez foncée. Il y a quand même de l'amertume, mais pas tant que ça. Honnêtement, c'est un bon café pour se réveiller le matin. Assez polyvalent. Puis avec juste assez de touches acides qui viennent avec le café de variété bourbon que moi j'aime particulièrement.
C'est des bons cafés ça.
C'est des bons cafés ça puis les cafés ancestraux, les heirlooms.
Oh, oui.
Ça là c'est des bons cafés
puis les
super
tomates
acides que j'aime. Ah oh, oui les tomates heirlooms aussi. Ils sont toutes croches mais on les aime.
On les aime de même.
Donc on vous recommande aujourd'hui le café Total Eclipse du torréfacteur Discovery.
Yes.
Yes. De Bonnie Tyler.
C'est elle-même qui a torréfié le café.
Voilà. Maintenant, j'ai fini de cafouiller en parlant de café, puis maintenant, je vais t'écouter raconter une histoire terrible.
Mais là, juste avant que je commence à te parler de plug, puis je
de
me
plug?
Rends compte que toi puis moi, il faudrait peut-être qu'on s'adresse à nos auditoristes.
Pourquoi?
Parce que j'ai oublié de te le dire en arrivant, parce que tu m'as pitché au sous-sol pour qu'on commence
immédiatement. Ben là, on a eu comme 10
un changement
avant,
de plan.
Oui, 10 minutes avant qu'Audrey arrive, mon chum m'a dit « Ah, en passant, il faut que je parte à telle heure, qui était 2 heures plus tôt que ce qu'on avait prévu. » Fait que, vu qu'on fait une grosse journée d'enregistrement aujourd'hui, c'était comme « Viens, viens, dépêche-toi, on n'aura pas le temps de luncher, là, on fait tous les épisodes back-à-back, puis après ça, on se reposera. » Voilà. Fait que c'était ça mon mood quand Audrey est arrivée. Puis là, j'ai perdu ma bouteille d'eau. T'en vois-tu?
Non.
Non. Je me rappelle avoir descendu.
Ah non!
Eh où?
Ah non!
Voilà, c'est ça qui est arrivé. Fait que c'est quoi la plug?
Ben, c'est que vous l'avez peut-être remarqué. Je sais pas si rendu à cet épisode-là, il va en avoir, mais il va maintenant y avoir des pauses publicitaires. Dans les épisodes. comme vous savez, Catherine et moi, on a commencé ce projet-là, ça va faire maintenant pas tout à fait 4 ans. Et au début, on s'attendait à rien. On pensait qu'il allait avoir comme 10 personnes qui allaient nous écouter et on allait être bien satisfaites avec ces chiffres-là.
Mm-hmm.
Mais finalement, ça a grandi exponentiellement. On est super reconnaissantes que vous soyez avec nous dans cette mm-hmm. aventure-là. Par contre, nos vies à Catherine et moi ont beaucoup changé depuis qu'on a commencé. Puis on s'est rendu compte que si on voulait continuer de grandir et d'avoir les moyens de le faire, il fallait qu'on passe à une étape plus haute.
Oh!
Donc maintenant, il va y avoir des pauses publicitaires dans les épisodes. Sachez que Catherine et moi, par contre, on ne fera pas des pubs pour tout et n'importe quoi. On a quand même un droit de regard
oui.
là-dessus.
Oui, oui.
Puis, sachez qu'il est toujours possible de avancer avec le petit piton 15 secondes.
Oh oui, le petit piton 15 secondes, c'est pratique, ça!
Et les abonnés Patreon, et là, je parle tous les abonnés Patreon, donc que vous payez juste le 3$ ou que vous vous gâtiez avec le 15$, vous allez avoir accès à nos épisodes sans les pauses publicitaires.
Mm-hmm.
Donc voilà, ça serait une nouvelle accroche pour vous abonner. Sachez que Catherine et moi, on a toujours la même passion. C'est juste que le temps de recherche qu'on met, le temps pour enregistrer, le temps pour monter, le temps pour faire les illustrations, c'est beaucoup dans nos vies. On travaille toutes les deux à temps plein.
Yeah.
Et juste pour pouvoir continuer sans péter aux frettes, ben ça nous prenait un peu d'aide.
On est fatigué.
Ça nous prenait un peu d'aide qu'on a été chercher. Sachez que justement cette aide-là, par contre, on a un droit de regard dessus. On ne vous annoncera pas des gros camions qui polluent.
Non.
Non.
Tu veux pas d'annonce de F-150?
Non. Je vais les laisser à Karine Vanasse.
Oh my God. C'est controversé ça.
Alors. Ouais. C'est ça, on espère que ça vous dérangera pas trop et que vous serez toujours là avec nous.
Ben oui.
Mais c'est ça, sachez que c'est juste que Catherine et moi, on avait besoin d'une petite aide pour continuer et ne pas péter aux frettes et envoyer l'enfant de Catherine à l'université parce qu'elle fait attention de ne pas le bercer trop proche du mur.
Oui, parce que ça, ça diminue tes chances d'aller à l'université.
Exactement.
Sauf si tes parents sont riches aux États-Unis puis ils payent par le backdoor pour faire semblant qu'il est dans l'équipe sportive du
How
collège.
How dare you!
J'ai vu les documentaires là-dessus. Mais c'est aussi pour dire que la raison pour laquelle on a pris cette décision, c'est tant pour ne pas péter aux frettes, comme mon enfant a l'air de faire en haut, il crie, mais probablement qu'on ne l'entend même pas dans le micro. Mais c'est correct, mon chum va s'en occuper. Mais donc, c'est autant pour ne pas péter aux frettes que parce que, nous, on a été bercés trop proche du mur, puis on est cocoon en ce qui concerne les finances.
Exactement.
On n'est pas des chats de la finance. On n'est pas des finance cats, pantoute, ni des business cats, pantoute. Fait que, justement, on est allé chercher du monde qui va pouvoir nous aider avec ce côté-là, puis nous compléter.
Voilà, puis ça va peut-être aussi nous donner des opportunités pour embarquer sur d'autres projets.
Oui, puis faire des épisodes spéciaux avec des invités spéciaux. Ça, c'est un de nos objectifs avec ce nouveau partenariat-là.
Exactement, puisqu'on était mal à l'aise d'inviter Éric Bruno chez Catherine.
Oui, mais là, on lui a écrit. Fallait que je le signale. J'ai pas eu de réponse. En fait, j'ai écrit à son agent, j'ai pas eu de réponse. Puis, c'est ça. Dans les premières journées, j'étais stressée. Puis là, maintenant, je suis revenue au niveau de stress normal que si je reçois un retour de courriel, je vais faire le saut.
C'est ça!
Pourquoi ils m'écrivent?
Ouais. Fait que, voilà, c'est les nouvelles par rapport à nous. Alors, merci d'être encore des nôtres après toutes ces années, ou peu importe, même si vous avez juste embarqué dans l'aventure il y a 2 semaines.
Merci d'être encore là.
Ah oui.
Vous auriez pu arrêter au bout de 5 minutes.
Ouais, vous auriez pu faire comme tabarnak.
Ah, qu'est-ce que c'est?
Barnac!
Barnac, qu'est-ce que c'est? Non! Bon, je vais retourner écouter Joe Rogan Experience.
Donc, là-dessus, je vais pouvoir commencer mon cas.
Ben oui. J'ai hâte.
Que j'ai intitulé John Bauer, un bon père de famille. Il a fallu que je passe le search dans mon texte pour être sûr que j'avais pas accidentellement écrit Jack Bauer.
Oh! De 24 heures.
Exactement.
Bip, 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 bip. Oh mon Dieu. C'est tellement stressant, on va arriver 24! Mon Dieu, c'est stressant! On a toujours 24 heures pour sauver le monde.
Toujours.
Contrairement à la toune de Justin Timberlake. Et Madonna.
Exactement.
Puis quelqu'un d'autre, genre...
Timbaland.
Ouais,
oui, c'était à l'époque parce qu'il y
a... Avec l'autotune.
C'est bon, Timbaland, il était comme... Sur toutes les features à tout le monde,
oui.
Il arrivait...
Faisait juste faire... Ouais, comme dans la tonne de One Republic.
Oui.
Va... Ben, c'est mieux que Little John, mais en tout cas.
Bon. Il va feature dans notre épisode aujourd'hui aussi. aujourd'hui, ma source, c'est Death of a Family, un article de Sharon Doyle Dreger du Maclean's, qui a été publié le 15 avril 2002, qui n'est plus disponible en ligne. J'ai dû utiliser le Internet Wayback Machine.
Le Wayback Machine?
Je me sentais comme un hacker. Amen.
Ouais, exactement. Pareil comme Mafia Boy.
Exactement.
Mais là, on sait que c'est pas un bon père de famille, d'abord.
Eh non.
C'est du sarcasme.
C'est du sarcasme.
Ah, okay. Oh! C'est beau, je suis embarquée dans le train.
Alors, trigger warning, parce que ben, c'est un family annihilator, donc il va y avoir des morts de femmes et d'enfants, mais les enfants sont pas trop jeunes. On se console comme qu'on peut dans notre domaine.
Ben ouais.
C'est assez court comme épisode. Ma vie a été un petit peu rocambolesque ces dernières semaines, alors 100%. J'ai visé un petit peu moins bas que d'habitude et j'espère que je serai pas trop déçue de moi-même.
Non, un peu plus bas que d'habitude.
Oui.
On aurait dit que tu disais que d'habitude, ton cas, il est vraiment bas. Puis là, il est moins bas que d'habitude! Non, c'est le contraire!
Il est le contraire! Bon. Je suis pas en train de dire que ça va être pas juste moins étoffé que genre l'Avaganza.
Ouais, mais parce que des fois, il y a moins de détails qui sont disponibles.
C'est ça.
Puis voilà, moi, je vais en reparler dans mon cas après.
Je peux pas en faire plus. J'ai pas de boule de cristal. Alors, dans mon introduction, j'ai décidé de vous parler, un peu de vous faire une mise en contexte de c'est quoi un family annihilator, parce que c'est une sorte de criminel vraiment particulière. On en a eu pas beaucoup au Québec, là, mais là, je sais que vous pensez tous à la même personne. Mais il y en a plus aux États-Unis.
Est-ce que son nom rime avec Bi Marmotte?
Exactement.
Mais c'est pas un family annihilator parce qu'il a pas tué son ancienne femme.
Non, mais quand même.
C'est des infanticides.
C'est des infanticides.
C'est une autre catégorie. Ça, on en a eu plus, puis c'est terrible.
Ouais. Alors, je vais commencer avec c'est quoi un family annihilator. Donc, dans un article mis en ligne sur Wired en 2013, on décrit les family annihilator comme étant des individus inconnus tant des services de santé mentale que des autorités judiciaires. Souvent, ils sont perçus comme étant des pères et maris aimants et ils occupent de bons emplois. Le professeur David Wilson de l'Université de Birmingham en Angleterre les divise en 4 catégories. Là, je m'excuse, je les ai comme pas traduits parce que j'arrivais pas vraiment à trouver des bons termes, des termes qui me plaisaient. Alors, dans un premier temps, on a le self-righteous, qui sont ceux qui tiennent leur conjointe comme responsable de l'effritement de la cellule familiale. Et le crime va souvent survenir lorsque la conjointe demande le divorce ou qu'on apprend qu'elle a une aventure extra-conjugale. Ensuite, on a le type disappointed, qui sont ceux qui tuent leur famille en raison d'une déception qu'ils ont subie à cause d'une décision prise par l'un des membres de la famille. Souvent, c'est lorsqu'un enfant décide de ne plus souscrire aux croyances religieuses de sa famille ou annonce qu'il appartient à la communauté LGBTQIA+. Donc là-dedans, on va retrouver beaucoup les crimes d'honneur.
Wesh!
Ensuite, on a les anomiques.
Oh, what is that?
Qui sont ceux qui voient la famille comme le symbole d'un certain statut économique. La tragédie survient lorsque le patriarche subit un revers sur le plan économique ou professionnel et craint de voir sa famille et son statut être dévalués. Et ensuite, on a le type paranoïde, qui sont ceux qui tuent leur famille en cherchant à la protéger. Par exemple, si la DPJ tente de placer les enfants dans des foyers d'accueil ou en raison de croyances religieuses ou autres. Ce crime-là a eu lieu plusieurs fois aux États-Unis dans les dernières années à cause de la croyance QAnon. Il y a eu beaucoup de pères de famille qui ont tué leur famille parce qu'ils croyaient que c'était la guerre civile qui s'en venait ou quelque chose dans ce genre-là. Avec les ébranlements politiques qu'on vit présentement, ce type-là est en hausse. Donc, il va falloir faire attention à ça. Peu importe la catégorie à laquelle ils appartiennent, les family annihilators sont généralement des hommes aux tendances assez conservatrices, qui ont une conception très stéréotypée des rôles des femmes et des hommes au sein d'une famille et qui se voient tout au haut de cette hiérarchie qu'est leur famille. L'une des manières par lesquelles ces Family Annihilators maintiennent le contrôle sur leur famille, c'est par l'argent. En étant souvent le seul pourvoyeur pour leur famille, ils se voient comme possédant un certain pouvoir leur permettant d'exercer un contrôle sur sa conjointe et ses enfants. Et là, je vais passer au deuxième point que je tenais à aborder avec vous aujourd'hui, qui est l'abus économique, qui est une forme de violence conjugale dont on parle très peu. Pour l'abus économique, un abuseur va contrôler la vie de sa victime en réduisant l'accès de cette dernière à l'argent, de manière à ce que celle-ci en vienne à complètement dépendre de son abuseur pour des besoins aussi simples que se nourrir, se loger et se vêtir. Il s'agit d'une forme de manipulation sournoise qui peut se manifester par des tactiques telles que le fait d'exercer une pression sur son ou sa conjointe à quitter son emploi, forcer son ou sa conjointe à lui remettre son salaire et toute somme qu'il ou elle pourrait gagner et ouvrir un compte conjoint auquel la victime n'a pas accès. Un abuseur pourrait également forcer sa victime à lui remettre une importante somme d'argent pour effectuer un achat dont lui seul bénéficie, par exemple une nouvelle voiture, un loyer, un voyage, des choses comme ça. Puis là, on va nuancer ici. Je ne dis pas que le fait d'ouvrir un compte conjoint constitue automatiquement une forme d'abus. Je crois aussi que quand on forme un couple, c'est normal de parfois aider l'autre s'il se trouve dans une situation de précarité économique. Par contre, je pense que les conversations entourant l'argent doivent pouvoir se passer dans le calme et avec honnêteté. Si une importante somme a été prêtée, le prêteur a droit à des explications et à un plan quant à son remboursement, et les achats substantiels devraient être discutés sans qu'une pression quelconque soit mise sur l'un ou l'autre des individus qui forment le couple. Aussi, si un conjoint est plus confortable que l'autre sur le plan économique, ce confort ne doit en aucun cas être utilisé pour manipuler ou rabaisser l'autre. Tout le monde doit avoir un droit de regard sur l'état des finances. Je le rappelle, cette tactique de manipulation constitue une forme de violence conjugale puisqu'on cherche à vous enfermer dans une situation en vous retirant les moyens pécuniers de pouvoir vous en échapper. Si vous pensez être victime d'une forme d'abus financier ou de violence conjugale en général, n'hésitez jamais à faire appel aux ressources de sosviolenceconjugale.ca ou appeler au 1-800-363-9010.
Oh!
Alors, c'était mon introduction.
C'est une belle intro!
Voilà!
Puis c'est terrible. Les,
exactement.
Les types de Family Annihilator peuvent-ils manger beaucoup de marde?
Oui.
Ah, cool, absolument. Parfait. Je me demandais. Hey, je me retenais.
Alors là.
Le... Maudit de faire des commentaires. Oh, ouais.
OK. Là-dessus, je vais pouvoir commencer mon cas, mais je vous invite à garder en tête ce que j'ai dit au début de cet épisode. Partie 1.
Mm-hmm.
Une découverte tragique. Le 21 septembre 2001, André Bouchard, le chef de la section des crimes majeurs du SPCUM, maintenant le SPVM.
Le SPCUM.
Mm-hmm. Est appelé à se rendre au 85 Alta Vista à Kirkland, où un incendie avait éclaté aux petites heures du matin.
Oh non, pas Kirkland.
Kirkland.
Oh non.
Après être venu à bout des flammes, les pompiers avaient découvert 6 corps répartis à travers le domicile, tous les 6 abattus d'une balle à la tête. Dans la cuisine, à côté des corps des 2 hommes, un pistolet de calibre 22 est découvert, ainsi que des bidons d'essence vides indiquant que l'incendie n'était pas accidentel.
Selon le commandant André Bouchard, la scène avait toutes les apparences d'un meurtre collectif suivi d'un suicide. Les cadavres étaient ceux de la famille Bauer, le patriarche, John, 51 ans, sa conjointe Helen, 50 ans, et leurs 3 fils, Jonathan, 22 ans, Wesley, 19 ans, et Justin, 13 ans. Le 6e cadavre était celui de Lucio Beccherini, le partenaire d'affaires de John Bauer. Il avait 44 ans.
Avait-il une aventure avec sa femme?
On va y revenir.
Je fais des suppositions.
C'était la voisine et une amie proche de la famille Bauer qui a composé le 911 lorsqu'elle a vu un épais nuage de fumée noire se dégager du domicile des Bauer. Sur place, celle-ci se rend auprès du commandant Bouchard pour lui témoigner de son inquiétude pour Elmer Carroll, le père de Helen, qui venait souvent passer du temps avec la famille de sa fille, la fin de semaine. Celui-ci était âgé de 75 ans et vivait seul dans un appartement de Notre-Dame-de-Grâce.
Oh non!
À la demande de Doyle, Bouchard envoie une patrouille au domicile de Carroll. Là, une découverte macabre attendait encore les policiers. Elmer Carroll avait également été abattu d'une balle à la tête. Malgré l'absence de preuves, Bouchard soupçonne Bauer d'avoir abattu son beau-père avant d'assassiner sa famille, son partenaire d'affaires, d'incendier sa maison et de s'enlever la vie.
Mais c'est quoi son petit problème?
On va y revenir.
Ah, OK, excuse-moi. Mais tu le sais, il faut que je pose la question. C'est ma question.
Le carnage prend l'entourage des Bauer par surprise.
Ben oui, je comprends.
C'était un homme qui était toujours disponible pour aider les autres. John était un homme généreux. Malheureusement, il souffrait en silence et personne ne le comprenait. Je crois que la vie que nous menons ici sur le West Island met beaucoup de pression sur les individus, déclare Linda Allison, une voisine et autre proche de la famille, aux journalistes dans les jours ayant suivi la tragédie. La famille Bauer habitait une élégante maison de Kirkland, munie d'une piscine et d'un garage, dans une communauté aisée où la majorité du voisinage est composée d'hommes d'affaires et autres professionnels.
Mm-hmm.
Au printemps, John et son fils Jonathan s'étaient rendus ensemble à Myrtle Beach pour jouer au golf. En juillet, Justin avait reçu un chiot pour son 13e anniversaire. Tout l'été, John et Helen avaient été encouragés de Justin pendant ses parties de baseball. Pourquoi un homme à la vie rangée et une belle famille unie en est-il venu à commettre un geste d'une telle cruauté? La réponse ne tarderait pas à arriver sous la forme de lettres envoyées aux frères de John Bauer, Steve, à Burlington, en Ontario, aux frères de Helen à Montréal et son cousin à Hamilton. Partie 2. Un petit gars de Griffintown. John Bauer est né en 1950 à Griffintown, alors un quartier ouvrier de Montréal majoritairement habité par des immigrants irlandais. Il était le troisième de quatre enfants. Son père était boucher et sa mère, une femme au foyer autoritaire. En 1965, les parents de John parviennent à amasser assez d'argent pour déménager leur petite famille dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, un coin décidément plus prospère de la ville.
Oh!
Adolescent, John fréquente l'école secondaire Saint-Thomas-Aquinas, une école catholique mm-hmm. anglophone située dans le quartier Saint-Henri qui existe toujours,
mm-hmm.
toujours ouverte.
Mm-hmm. Je reconnais cette école-là.
All right, t'habites dans ce coin-là.
J'habitais dans ce coin-là, c'est ça.
C'est aussi à l'adolescence que John fait ses preuves comme athlète, particulièrement au baseball et au hockey. Un ancien collègue de classe, Sean Harty, confie au journaliste que John semblait aimer les sports parce que ceux-ci le mettaient dans des situations où il se sentait libre d'être dur et intransigeant avec ses camarades.
Oh, wesh!
Ouais. Vers la fin de son adolescence, John était devenu un arbitre respecté au hockey des ligues mineures et s'était même éventuellement fait offrir un contrat avec la NHL.
Arbitre.
J'ai écrit NFL probablement parce que mon chum est en train de regarder le Super Bowl.
Mais c'est ça que j'allais dire, ça me fait penser au mème du chum de Taylor Swift qui engueule son coach. Là.
Ouais.
C'est comme la permission d'être intransigeant et difficile avec ses camarades. Oui. OK.
Et il va être bon le prochain album à Taylor Swift.
Ça va être écœurant.
Bauer va cependant refuser le contrat, préférant la sécurité financière qu'une job d'enseignant au secondaire lui offre.
Pardon?
S'il y a des enseignants au secondaire qui nous écoutent présentement, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Pardon? Il préférait être enseignant au secondaire et d'être coach à NHL? Ouais. Il me semble qu'être coach à NHL, tu gagnes comme 100 fois ton salaire. Tu peux travailler là 2 ans puis plus jamais travailler de ta vie, mais
en tout cas. Peut-être okay. qu'à l'époque, les salaires étaient moins gros.
Non, non, en tout cas.
Écoute, s'il y a du monde qui travaille comme arbitre,
les arbitres.
On veut vous entendre. En tout cas, les arbitres au soccer, c'était bénévole.
Les arbitres.
Arbitres.
Les arbitres.
À l'université, John fait tourner les têtes grâce à son charme, son humour et son charisme naturel.
Wesh.
Selon Wendy Dineen, une enseignante montréalaise ayant été l'amie de John et Helen à l'université, John était le genre de personne qui saisit rapidement à qui il a affaire. Il se faisait des amis rapidement et savait toujours à qui s'adresser pour obtenir ce qu'il voulait. C'est en 1969, tandis qu'il fréquente l'université pour obtenir sa licence d'enseignant, que John fait la connaissance de Helen Carroll. Selon Dineen, Helen aurait poursuivi John sans relâche pour tenter de le séduire. Pour Helen, John était un véritable héros. Il avait de l'argent, il était un athlète et était sûr de lui.
OK.
J'ai pas trouvé c'est quelle université qu'il fréquentait. J'ai l'impression que c'est McGill. Parce que c'est des anglophones de Montréal.
Bon, là, j'ai probablement... T'es en 1969, en plus. Ouais. Concordia, ça existait pas encore.
Non. Fait que ça doit être McGill.
Ça doit être McGill.
McGill.
McGill College.
Oh, yeah. Pendant leur relation, John est aussi exigeant envers Helen qu'envers ses anciens coéquipiers.
Ah non, cool.
Et les amis
cool,
de Helen. Cool. Red flag, red flag.
Drapeau rouge.
Drapeau rouge. Carton rouge.
Carton rouge, là, John. Calme-toi.
Les amis de Helen voient des changements négatifs s'opérer chez celle-ci. Celle qui aimait autrefois sortir et s'amuser ne voit maintenant que rarement ses amis, préférant rester auprès de John, qui ne cache pas sa jalousie. Elle était obéissante, mais elle semblait heureuse, déclare Dineen au journaliste.
Oh non!
autre que sa jalousie, un autre trait de personnalité de John froissait particulièrement Danine. Oh. Selon elle, John aimait faire flasher son argent et dépensait sans compter pour épater ses amis et connaissances.
Mais il est prof au secondaire!
Oui, je sais! Mais il était même pas prof encore, il était étudiant!
Ah, excusez!
Puis il était arbitre au hockey, des ligues mineures!
Ah! Le hockey bantam!
Exactement! Pee-wee!
Le Pee-wee 2A! Non, je sais pas comment ça marche, c'est juste qu'il y a des lettres puis des...
Dans
des arénas des mots qui n'existent pas!
Dans comme... des arénas de Valleyfield!
Oh, la grosse aréna à Delson!
Hey. Oh!
Oh, t'es beau ça!
À ce jour, les amis de John ignorent d'où provenait cet argent puisque John ne travaillait alors qu'à temps partiel dans un magasin d'équipements de sport pour payer ses études universitaires.
Oh, peut-être qu'il vendait son corps.
Oh!
Oh!
Comme Antoine Pilon dans...
Dans le complément lycée, exactement!
Oh, mon corps!
Oh non, c'est la seule solution!
Ce qu'ils ignoraient, c'était que le patron de John était le propriétaire d'un cheval de course et qu'il envoyait régulièrement non. John à l'hippodrome placer non. des paris pour lui.
Non!
En passant, gérant de sport expert qui est propriétaire d'un cheval de course, c'est tout un CV.
Ça coûte cher un cheval de course,
ben
en
oui,
plus.
Ça coûte cher un cheval, point.
Ça coûte cher un cheval. Ça coûte cher un cheval. Ça coûte très cher un cheval.
Pour le remercier pour la commission, il donnait un pourcentage de ses gains à John. C'est tout cela que John a fait la connaissance de certains personnages plus ou moins recommandables.
Ah bon?
Partie 3, la grosse vie sale.
Des chevaux?
C'était... Des chevaux qui fument.
Celle-là, on l'appelle Brown Sugar. Oh! Elle a toujours une cigarette au bec.
Oh là là!
Oh là là!
Ça, c'est Johnny. Il conduit une moto.
Oh!
Selon la sœur de John, celui-ci refusait catégoriquement de demander Helen en mariage avant qu'il n'ait amassé assez d'argent pour acheter une maison pour y emménager et fonder une famille. C'est pour ça que plus personne se marie maintenant.
Oh!
On n'a pas ça, nous.
L'accès à la propriété.
Non.
Ah.
Ah, je peux t'offrir un Big Mac.
Ah! Ah, oui, je le veux, mon chéri.
Finalement, c'est en juillet 1976 que John et Helen se marient à l'église catholique Sainte Monica dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.
Wow!
La même église où, 25 ans plus tard, leurs funérailles et celles de leurs trois enfants seraient célébrées.
Pas wow!
Non!
Oh, c'est bien glauque, ça!
Pendant près d'une décennie, John est enseignant au secondaire. Cependant, au début des années 80, celui-ci déclare en avoir assez des politiques départementales.
Yo!
J'ai tellement pensé à toi!
Voyons, non! Pas facile, les politiques départementales! Mais non!
Et encouragé par son beau-père qui travaillait pour la brasserie Molson.
Ben voyons donc!
Je sais, j'étais comme « Oh my God, oh my God, oh my
Mon
God.
Dieu, est-ce que c'est ma vie?
J'espère que non!
Ben là, j'espère que non, moi aussi!
Il se fait engager comme représentant chez O'Keefe. Deux ans plus tard, ayant acquis assez d'expérience, il se fait engager chez Molson avant de finalement atterrir chez Labatt en 1990 et il retournerait chez Molson parce que maintenant, ils ont fusionné.
L'espèce de... Non, ils n'ont pas fusionné. L'espèce de traître à sa patrie, c'est ça j'allais dire, c'est les deux gros rivaux là, dans le monde de la bière au Québec.
Mais c'est O'Keefe d'abord qui est chez Molson.
Ouais, O'Keefe est chez... Oh mon Dieu, mon chum serait pas fier. Je pense qu'O'Keefe est chez Labatt.
Ok.
Mais Molson puis Labatt, là, c'est les deux... les deux ennemis jurés.
C'est les Beyoncé et les Taylor Swift.
Pareil.
Pareil. Christina Aguilera et Britney Spears.
Miley Cyrus puis ses cheveux aux Grammys. Ils vont qui étaient comme, wow, c'était tellement beau, un hommage à Tina Turner. J'étais comme,
okay. On dirait qu'elle a 45 ans et qu'elle a divorcé deux fois.
Ah oui, c'est ça!
Puis elle est plus jeune que moi.
Puis elle s'en va faire du 7 carrés dans un party de country, là.
Puis qu'elle a genre toujours un paquet de smoke dans sa sacoche. Fraîchement ouvert.
Ah ben oui.
L'ex-enseignant extroverti se sent comme un poisson dans l'eau ou dans la bière dans cette nouvelle carrière.
Mais je comprends rien. Je comprends rien pour ça.
Il voulait flasher.
Ben non, mais oui, je sais qu'il voulait flasher, mais c'est parce qu'en plus, c'est ça, genre, je sais c'est quoi, je sais comment c'est payé d'être un prof au secondaire, puis mon chum travaille chez Molson, je sais combien c'est payé d'être représentant chez Molson, je comprends pas pantoute c'est quoi ce
changement de carrière.
Ben non, mais il semble que tu fais pas quatre fois le salaire quand tu vas travailler chez comme représentant. Fait que t'es vendeur chez Molson.
Il était vendeur chez Molson.
Ben c'est ça, je veux dire, tu fais pas quatre fois le salaire que tu feras en tant que prof.
Mais tu peux flasher de la marchandise.
Ouais. OK, peut-être.
Parce que, régulièrement,
oui.
John Bauer est appelé à se rendre dans des événements mondains afin de faire la promotion des produits Molson ou Labatt.
Oh, sweet.
Dès qu'une soirée est organisée, on fait appel à John afin de fournir des boissons ou des prix à remettre aux participants. Tiens, un beau frisbee, Labatt.
Hey, non, mais la quantité de swag. Tu le sais, la quantité de swag Molson qu'on a chez nous.
Ben oui, il y en a chez nous.
Ça n'a pas d'allure. On a des casquettes, des chandails, des frisbees, des chaises de plage.
Ben oui, j'ai un ballon de soccer.
Des parasols. Oui, ben il y a des ballons aussi. Il y a des verres. On a tout. Là.
Écoute.
Il y a même des sacs à dos. On a un sac à dos, Molson.
Oh yeah. En tant que mari et père, John Bauer est un homme assez conservateur qui cherchait sans cesse à projeter une certaine image, celle de l'homme qui a réussi professionnellement et économiquement. Mm. Il exerçait un contrôle total sur sa famille et Helen était son épouse docile qui restait à la maison s'occuper des enfants pendant que son mari gagnait un gros salaire pour qu'elle vive dans le luxe.
Pauvre petite madame. Moi, c'est de l'affirmation de leur amie qui était comme « Elle était obéissante, mais heureuse. » Puis je suis comme « Oh, wow, c'est deux mots qui, dans ma tête, vont pas ensemble. »
C'est comme la chanson de Nine Inch Nails, « Happiness in Slavery. »
C'est pareil comme ça. Mais comme c'est merveilleux d'être... Ben, je veux dire, on n'est pas en train du tout de chier sur les femmes au foyer.
Non.
Parce que c'est comme...
C'est votre choix.
Ben oui, c'est votre choix, puis c'est une job en soi. Là, oui. Les enfants, c'est comme... En tout cas, fait que ça c'est pas mal difficile. Puis je comprends qu'elle voulait faire ça dans le luxe. Ça, c'est une autre affaire.
Le luxe.
Ben ouais, le luxe, ça te fait oublier que t'es obéissante et peut-être pas si heureuse que ça.
Ouais, puis ta vie est comme un peu plate.
Ouais, c'est comme dans Les Voisins. C'est comme dans la pièce des voisins.
Je l'ai jamais vu.
C'est les gars de La Petite Vie là, qui ont écrit ça. Donc j'oublie toujours le nom. Serge Thériault puis l'autre. Là.
Claude Meunier,
c'est ça! Puis là, il y a une madame qui est déprimée, puis son mari demande « Mais pourquoi t'es déprimée? Je t'ai acheté la belle balayeuse avec une corde de 20 pieds que tu voulais pour Noël, là! » C'est ça, tu sais, quand t'es... T'as pas vraiment de raison d'être malheureux, là! T'as du beau tapis en chaque dans toutes les pièces de ta maison, là!
Check ça, je t'ai acheté une laveuse sécheuse!
Voilà!
Garde!
Chargement frontal!
Nouvelle machine à café! Bzzz! Chaque Noël, John s'assurait d'offrir un cadeau dispendieux à Helen encourageait sa petite femme à l'exhiber à toute la famille. Des diamants, un manteau de fourrure, une voiture de l'année qui l'attendait dans la cour avec un immense chou sur le toit. Je savais même pas que ça se pouvait dans la vraie vie.
Comme à The Price is Right! Ouais. Combien pour cette voiture?
Oh, restez à la maison et s'est occupé de ma marmaille! Toutefois, selon des proches de Helen, les extravagances de John la mettaient souvent mal à l'aise et elle n'appréciait pas qu'il se serve d'elle comme un trophée pour exhiber sa richesse.
Ça devrait discuter avant le mariage.
Exactement.
c'est ça que tu veux que ton conjoint ou ta conjointe fasse. Il faudrait que ce soit clair avant que vous vous embarquiez ensemble.
Je voudrais que tu portes des t-shirts de Labatt pour que tout le monde sache où je travaille.
Et voilà! Je pensais que les cadeaux luxueux, là, j'étais comme là, ça va tomber dans de la lingerie, un gros dildo. J'étais comme, comment ça, il a montré ça à sa famille? Non. C'était pas des affaires pour elle, c'était des affaires pour flasher. Oui, c'est ça.
C'est un conservateur, il achète pas des dildos, là.
Non.
Il connaît pas les joies de la prostate, là.
Non, probablement pas. Il a pas encore eu son premier examen de prostate, il est pas assez vieux, là, c'est ça, voilà. Il va découvrir ça bientôt.
Il a pas encore eu la révélation.
Come to Jesus.
Ça dérape pas partout, ça, cette histoire-là.
Ben là, il faut rendre ça plus léger parce que tout le monde meurt.
Les trois fils de John n'étaient également pas en reste. Malgré son horaire chargé, il prenait le temps de s'asseoir avec eux pour faire les devoirs, était coach de leurs équipes sportives et parfois même arbitre.
Pas bon.
Il gâtait aussi ses trois fils avec des consoles de jeux vidéo, une machine à pinball, des ordinateurs et de l'équipement sportif.
He's a pinball wizard. It has to be a trick. Okay.
John était aussi un homme intransigeant qui n'exigeait pas moins que la perfection de la part de ses fils.
C'est comme la troisième fois que tu utilises l'adjectif intransigeant.
Oui, mais j'ai appris ce nouveau mot.
Mais si j'ai poussé,
c'est le mot
comme...
de la semaine.
C'est le mot de la semaine. Et vu que ça fait trois fois que ça revient en lien avec John, je commence à te croire. Il avait l'air intransigeant.
Il a l'air de quelqu'un qui aime pas les compromis dans la vie.
Tabarnouche, donc.
John était coach pour une équipe de hockey mineur.
Hockey?
Jonathan était coach pour une équipe de hockey mineur et travaillait comme barman pour ramasser de l'argent pour emménager dans un appartement à Montréal.
Et comme go-go boy au 281.
Au grand désarroi de son père, Wesley avait abandonné le sport et s'était enrôlé au cégep Dawson dans un programme d'art.
Ah!
Et avait joué de la guitare.
Un cégep public!
Ew! Wesh!
Il y a plus que 2000 étudiants, c'est pas assez select. Mais là,
il
s'appelait Wesley avant de faire tous ces moves-là. Ben, c'est pas comme il s'appelait Jesley. Puis là, quand il a fait tout ça, il était comme, on va changer ton nom pour pecter l'initial G.
Ouais, mais je pense que ça a toujours été comme, ouais, je sens que en tant que middle child, je vais aller faire mes affaires dans mon coin.
Ah, peut-être.
Je sens qu'on se calisse un peu de moi.
Là, ça se peut. Mais c'est peut-être juste un hasard. Il aimait peut-être juste tous les noms des J.
Ouais, mais
il est... De Dyer.
Il est le seul qui avait pas un nom de J.
Ouais, c'est vrai.
C'est triste.
Ouais.
Selon les proches de la famille, les trois garçons aimaient autant leur père qu'ils le craignaient. Le mariage de John et Helen avait aussi commencé à s'étioler, Helen en ayant assez de l'attitude contrôlante de son mari.
Ah!
Partie 4.
Tu m'étonnes.
Perte de contrôle.
Oh!
En 1996, John subit une blessure grave à la jambe, et là, entre parenthèses, j'ai beau chercher, je n'ai jamais trouvé quelle était cette blessure.
Il s'est enfargé dans ses lacets, puis il tombe à pleine face sur le trottoir.
Exactement.
Puis là, il s'est éraflé le genou.
I'm a little boy and I've hurt my knee.
C'est exactement ça.
En plus, la plaie s'infecte et John a si mal qu'il n'arrive plus à marcher.
Oh mon Dieu!
L'ancien athlète a vu son poids passer la barre des 300 livres, le forçant à subir un cerclage gastrique, brochage d'estomac pour le common people.
Ah ben oui.
Pour arriver à perdre du poids.
Ah.
Incapable de travailler pendant près d'un an, les chèques des assurances sont venus à manquer et Helen a été forcée d'emprunter de l'argent à son père pour subvenir aux besoins de sa famille. En quête de changement, John demande à être transféré au bureau de Labatt situé à Calgary, une demande qui lui sera refusée.
What? Pourquoi?
Oh non! J'ai envie que tout soit vraiment plate.
Oui, c'est
comme
ça!
Comme ma vie, le paysage, tout.
Les
tout
vaches, les cactus.
Hey, chérie, je t'amène en voyage à Calgary.
On peut même pas changer de Saskatchewan. Non. C'est même pas là.
Oh, ils sont pas assez loin.
Y a-t-il quelqu'un qui a fait une toune sur l'Alberta?
Sûrement.
Ah, OK.
Finalement, en 1999, ouais. John annonce à sa famille qu'il quitte son emploi, supposément écœuré par tout le monde ensemble.
Politique du départemental. Ben voyons donc!
Ça a l'air d'être l'excuse facile,
mais
là.
C'est comme si t'as toujours des problèmes avec les autres. Peut-être que le problème, c'est toi.
Oui. Il y a de l'air d'avoir comme un point commun, là, dans tous ces emplois-là.
Ah bon?
Ouais, on dirait. La chicane a l'air de toujours être là où t'es, monsieur.
C'est pas de sa faute.
Eh oui, c'est parce que Môme Desjardins, il l'aime trop.
Pas boum! Voyons donc!
Boum!
Voir qu'on a pu parler de boum aujourd'hui.
Boum! Toutefois, selon des documents obtenus par la police suite à la tragédie de 2001, John aurait plutôt été renvoyé dû à ses abus d'alcool et insubordination.
Colore-moi surprise.
Puis aussi, tu travailles à la batte puis t'as un problème d'alcool, c'est comme pas génial.
Mais là, écoute, il disait dans Breaking Bad, là, il faut jamais que tu consommes.
Non,
tu consommes jamais sa job.
Don't get high on your own supply.
Non, don't get high on your own supply, exactement.
Voilà.
Fait que même si tu travailles dans une compagnie qui fait du crack cocaine, faut pas que tu consommes du crack cocaine.
Touche pas le crack cocaine.
Non, touche pas ça.
Contente-toi de porter le swag.
Le swag de la crack cocaine company. Ça serait beau, ça.
T'avais une petite pipe à crack, là.
Oui, mais c'est
brandy.
Oh non, mais t'as juste un sweatshirt avec une cuillère avec une petite flamme en dessous.
Bold!
Mais dans un style cartoonish, là.
New York Fashion Week.
Comme si c'était la compagnie What the Fuck qui l'avait faite.
J'imagine, genre, Kanye West porter ça.
Ben ouais, non, 100%.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Il n'aurait vraisemblablement jamais avoué la véritable raison de son départ à quiconque, et encore une fois...
C'est commun avec ben des familles annihilées.
Oui, comme dans le livre d'Emmanuel Carrère.
Ben, c'est ça, j'allais dire. Ça, c'est l'histoire qui... Je trouve ça tellement fascinant, pour tellement de raisons, cette histoire-là.
Oui, je pense que j'étais choquée.
C'est chose-truc de Lyonnais, c'était ça son nom?
Oui.
Au monsieur, oui.
How?
C'était pendant très longtemps, petite parenthèse. C'est un monsieur qui a tué toute sa famille en France. Dans les années 90, puis ça faisait genre 20 ans qu'il faisait croire à tout le monde qu'il était un médecin auprès de l'Organisation mondiale de la santé, mais en fait, il avait jamais fini ses études universitaires.
Puis tout ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dans sa voiture puis allait se stationner dans un stationnement genre sur le bord de l'autoroute.
Oui, à longueur de journée.
Il mangeait son lunch, il faisait des mots croisés puis il retournait chez lui.
Oui, C'était complètement fou. Puis à un moment donné, quand il s'est fait trop coincé à la gorge.
Comment tu peux faire ça pendant 20 ans? C'est tellement plate.
Je comprends pas. Puis l'affaire, c'est que c'est ça que je me dis, là. C'est ça que je disais à mes étudiants cette semaine. Parce qu'on parlait de à quel point c'est des efforts de tricher dans un examen.
Oui.
C'est comme, tant qu'à mettre autant d'efforts, pourquoi tu fais pas juste faire ce que t'es censé faire? Fait que tant qu'à faire semblant d'avoir une job à tous les jours, pourquoi il est pas allé
se trouver une job?
Oui! Tu sais, quitte à, je sais pas, être genre commis dans une pharmacie ou whatever, au moins il fait quelque chose, il est pas juste assis dans son char.
Mais c'est parce que, tu sais, la pyramide de Maslow, comme le sens de l'accomplissement puis de l'épanouissement, ouais, c'est vraiment haut. Fait que je sais pas comment tu peux vivre 20 ans à rien faire. Comme, pour vrai, là, je suis partie de mon ancienne job parce qu'il y avait pas assez de job. Puis c'était trop plate.
Ben ouais.
Comme, j'étais plus capable de faire ça, me lever à tous les jours, puis juste attendre.
Mais ça, c'est ça, parce que le travail et la vie perdent leur sens.
Mais là, je suis pas en train de dire que vous devez être des workaholics puis travailler tout le temps. Là,
non, non, parce qu'il y a plein de façons de s'accomplir dans la vie, c'est ça.
Non, non, comme, tu sais, il y a plusieurs façons de s'accomplir. C'est juste que vraiment, ta vie, c'était juste te lever, aller dans ton char, faire des mots croisés, puis retourner chez toi. Ça me dépasse.
Peut-être que sa passion secrète était les mots croisés.
Mais il aurait pu participer à des compétitions de Scrabble.
Tant qu'à y être.
Tant qu'à y être. Ou écrire des mots croisés. Il y a du monde que c'est leur job d'écrire des mots croisés.
C'est quand même funky comme job, ça.
Puis c'est des gens qui connaissent comme vraiment bien le vocabulaire puis tout ça. Là.
Ben oui.
En tout cas, ça me dépasse.
Moi aussi! De Ligonnès. J'essaie de me rappeler son nom encore, mais je suis pas capable.
En tout cas, puis là, on n'est pas en train de juger les gens qui sont en recherche d'emploi ou quoi que ce soit. Ben là, non, c'est des choses qui arrivent, mais...
Je sais que tous nos auditeurs qui viennent genre de la France sont en train de crier après leur... Parce que c'est un gars qui est super connu, là. C'est un meurtrier de super high profile, là. En tout cas, fait que ça, tout le monde est comme... Non, Catherine, c'est pas comme ça qu'il se dit son nom! Non! OK, oui.
Selon Dreger, qui a écrit... selon Dreger, qui a écrit l'article sur lequel je me base...
Oui.
À ce moment, Bauer aurait perdu bien plus qu'un emploi, mais également une part importante de son identité. Grâce à son emploi chez Labatt et aux bénéfices de celui-ci, John était vu par son entourage comme étant « the man ». Fini les soirées mondaines, les remises de trophées, la bière pour les barbecues entre voisins, vraisemblablement, le départ de Bauer de Labatt est un élément déclencheur l'ayant mené à la tragédie de septembre 2001. L'autre tragédie de septembre 2001, pas celle à laquelle on pense automatiquement.
Oui, choisis tes mots différemment, Madame Bluger.
J'écris l'autre. Suivant son départ de Labatt, John se trouve un emploi comme vendeur de balances électroniques.
C'est cool, ça.
Ah ben, funky.
C'est très niche comme
match. C'est très niche, mais je veux dire, why not?
Tu sais, il y a des
affaires... On en a besoin.
Oui, mais il y a des affaires que tu te dis, comment ces compagnies-là, ils font de l'argent parce que t'en achètes une puis t'as garde genre toute ta vie au c'est complet, ça. Là, tu sais. Fait...
Obsolescence programmée.
Ah, des balances numériques!
Qui arrêtent de fonctionner.
Non! Oh non!
Il se fait également engager comme gérant chez Spurs, un défunt bar à thématique country situé sur la rue Saint-Jacques, dans une section un petit peu mal famée du quartier Notre-Dame-de-Grâce de Montréal. Je suis comme triste que ça n'existe plus, c'est vraiment funky fresh.
Attends, c'était situé où?
Sur la rue Saint-Jacques? Quoi?
Ben, c'est à côté de chez nous, ça.
Ben oui, hein?
Ben oui, c'est ça!
On aurait non, pu aller
à la place, il y a le motel Colibri, puis le bar de danseuses nues, les Amazones.
Oh!
C'est ça qu'il y a maintenant, probablement, à cet endroit-là.
Ah,
3-4 concessionnaires de chars, un Tim Hortons.
C'est bon.
Un McDo.
Ah!
Puis après, l'autoroute.
Ben, c'est beau, ça.
Je sais, hein?
Catherine est bonne en géographie.
Je suis très bonne en géographie.
Là, au moins, le bar de danseuses, j'aurais pu garder la thématique country.
Spurs.
J'enlève tout, sauf mon chapeau puis mes Spurs.
Ben, ce serait nice. Pourquoi? C'est comme... Non, en même temps, ça prend du temps à faire le tour. C'est comme, c'est un peu limité comme thématique.
Puis là, les chevaliers déprimés, ils pourraient aller là, puis ça sent...
Oh! Et le père Ch'tibi.
Le père Ch'tibi avec son cheval déprimé.
Oh non, pauvre lui.
Viens ici, mon ami, le cheval, ça sent pas bien. Pourquoi qu'on finit toujours par faire des jokes de chevaux?
Je sais pas. J'allais dire, mais si c'est un bar de danseuse de cheval, c'est parce que c'est des juments qui dansent, tu sais.
Ils se font aller là, la queue.
C'est juste tous les chevaux qui sont comme un à côté de l'autre, dans la rue, puis il y a comme une fenêtre, fait qu'ils regardent en dedans, puis il y a la jument qui est comme ta 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 ta
ta ta ta ta ta ta ta ta
ta ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Éventuellement, John se trouve un nouvel emploi en assistant à un match de hockey de son aîné, Justin. Dans les gradins, il fait la rencontre du père d'un coéquipier de son fils, Lucio Beccherini.
Oh non, le gars qui meurt.
Oui. Catherine à l'écoute.
Oui.
Avec son associé Alain Chaput, celui-ci était le co-directeur du groupe financier SPAR. Oui, je viens de me rendre compte que SPAR et SPUR, on dirait la même affaire.
C'est ça
que
j'allais dire. Petit exprès. SPAR, SPUR.
Compagnie qui semble toujours en opération à ce jour selon le profil LinkedIn de Chaput. Selon Steve, le frère de Bauer, Steve était le frère de John Bauer, Beccherini aurait été impressionné par l'expérience de Bauer au sein des brasseries O'Keefe, Labatt et Molson. Selon Chaput, Beccherini aurait été pris de pitié pour Bauer et lui aurait offert du travail. Cependant, Bauer s'est révélé un excellent asset pour l'entreprise en raison des contacts qui s'étaient faits quand il travaillait pour les brasseries. SPAR était une société financière qui fournissait des crédits bail pour de l'équipement commercial. Catherine, pour répondre à ta question, dans le cadre d'un crédit bail, une entreprise met un bien d'équipement à la disposition d'une entreprise pour une période déterminée, moyennant les coûts d'une redevance périodique. En gros, on loue de l'équipement à des entreprises.
Ça, j'allais dire, ça tentait pas d'appeler ça de la location d'équipement à place de crédit bail? Ok, excusez, crédit bail.
Bauer agissait à titre de vendeur pour SPAR. Il recherchait des entreprises qui avaient du mal à être financées par la banque et leur offrait à la place les services de SPAR. Rapidement, John commence à se vanter à son frère des grosses commissions qu'il touche à son emploi. En réalité, la situation financière de Bauer était de plus en plus précaire et celui-ci touchait un salaire de 80 000 $ par année. Qui est pas si pire.
Mais ce qui était vraiment bon en 2001, il est tout seul en plus.
C'est ça. C'est quand même...
C'est beaucoup, 80 000 en 2001. L'inflation.
Oui. Pour continuer à vivre son mode de vie d'avant, il allait devoir emprunter de l'argent.
Son mode d'avis devant.
Mode d'avis devant. il allait devoir emprunter de l'argent, beaucoup d'argent.
OK.
Partie 5. Emprunter à Paul pour payer Pierre.
Ah, c'est bon ça.
Selon la police, au moment de sa mort, John Bauer avait cumulé une dette de près de 200 000 $ auprès de divers prêteurs, dont deux hypothèques, plusieurs compagnies de cartes de crédit, des avances de salaire chez Spar et des prêts privés plus ou moins legit.
Ah.
Bauer devait de l'argent à tout le monde qu'il connaissait. Pendant leur enquête, les policiers ont découvert plusieurs reconnaissances de dettes, dont une pour un montant de 10 000 $ dû à un ami quelques jours après sa mort. Une autre reconnaissance de crédit démontrait qu'il avait emprunté 6 300 $ au père de Helen et qu'il avait supplié celui-ci de ne surtout rien révéler à sa femme. Bauer avait également cumulé plusieurs dettes de jeu et devait probablement encore plus d'argent à des gens du milieu interlope. Le fils aîné de John, Jonathan, avait également accumulé d'importantes dettes de jeu, toutes remboursées par son papa, qui devait ensuite emprunter encore ailleurs pour rembourser ses propres dettes.
Je trouve ça niaiseux qu'il s'appelait John et son fils s'appelait Jonathan.
Oui. Surtout dans John Wick, John, il s'appelle Jonathan.
Ben, c'est ça.
Il y en a comme un qui est comme le surnom de l'autre.
Oui, aussi, mais c'est comme si, toi, tu t'appelles Audrey, puis là, tu as une fille, puis tu l'appelles Audrey-Anne. C'est comme...
Pour vrai.
C'est un peu répétitif.
Ouais, c'est comme si toi, t'avais un fils puis tu l'appelais Catherine.
Catherino.
Catherino!
Ouh!
En juin, Bauer avait appliqué pour une deuxième hypothèque au coût de 80 000 $ auprès de Spar. Chaput explique cependant que la demande de Bauer lui avait été refusée puisque celui-ci n'avait pas de plan de remboursement.
Ah, fait que tu peux pas juste demander à te faire prêter de l'argent sans être capable de dire que tu vas le rembourser?
Non.
Ah, ben, quel
concept!
Ah, ben, c'est weird, ça.
Selon Chaput, après que son offre ait été refusée par ses patrons, Bauer a cessé de se présenter au travail, se plaignant de maux de dos.
Ben oui!
Mets-toi donc plus dans le chenoute. Chaput et Beccherini ont tenté à plusieurs reprises de le contacter, n'arrivant qu'à parler avec son épouse, qui leur promettait toujours que John les rappellerait bientôt.
Mm-hmm.
Dans un rare moment d'honnêteté, John aurait fini par admettre à son frère Steve qu'il croulait sous les dettes et que la meilleure chose qui pouvait lui arriver à ce point serait de mourir afin que Helen et ses fils bénéficient de sa prime d'assurance-vie pour rembourser le tout et subvenir à leurs besoins.
Ben c'est cool, t'as pas besoin de faire du mal aux autres si tu penses de même, tu sais.
Tu peux juste t'en aller, monsieur.
Ça, oui, c'est ça. Ça n'implique que toi.
Voilà.
Ah ben.
Cette conversation aurait cependant allumé une ampoule dans l'esprit de Bauer et celui-ci aurait mis en branle un plan pour engager un tueur à gages afin qu'il l'abatte à la sortie d'un bar qu'il fréquentait avec Beccherini.
Ben voyons donc.
Cependant, le tueur à gages s'est contenté de prendre l'argent de sa cible et de le rapporter à la police.
Good guy, tueur à gages! Ben comme tant qu'à y être, effectivement.
Ça, où il donne... ils prennent l'argent, puis...
Ils le font jamais.
Puis ils font juste, comme, engager quelqu'un.
Oui, ou juste pas le faire. Exactement. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire, la personne? Ouais,
tu iras pas voir la police en disant, comme, « Oh my God, j'ai payé ce gars-là pour tuer quelqu'un, puis il l'a pas fait! »
Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est comme quand Conrad Labelle, il est allé voir la police parce qu'il s'était fait voler son stock de contrebande par quelqu'un, là.
Mais tu pourrais peut-être faire une plainte à protection du consommateur.
Donnez-y un bad business review à ce tueur à gage-là, il est pas fiable.
T'as dit une étoile sur Yelp. Cependant, le tueur à gage s'est contenté de prendre l'argent et de le rapporter à la police. Questionné par les agents, John nie tout et jure qu'il s'agit d'un malentendu, disant « Why would I want to kill myself? » J'ai accidentellement engagé un tueur à gage. Oups.
Pour me tuer moi-même.
C'était un drunk purchase, comme quand tu te commandes des cochonneries sur Amazon pour tes sous.
Exactement. C'est tellement facile. T'as juste à cliquer une coupe de place. Puis
je voulais. C'était un air fryer que je voulais pas un tueur
à gage. Oui, pas un tueur à gage.
Ah, mauvais clic. Partie 6. Le drame. Selon l'enquête du coroner, le massacre de la famille Bauer se serait déroulé sur une période de 3 jours.
Oh non.
Débutant le mardi 18 septembre 2001 avec la mort de Helen. John l'aurait abattue d'une balle à la tête tandis que celle-ci était toujours endormie. Justin, le fils le plus jeune, aurait connu le même sort que sa mère. Par la suite, John a téléphoné à l'école où celle-ci travaillait pour les informer qu'elle serait absente puisqu'elle ne se sentait pas bien. Si John...
T'imagines-tu si c'est comme... Oui, ma femme ne pourra pas se pointer pour travailler parce qu'elle est morte. Ah non, excusez, elle est malade.
Elle a mal à la tête, très mal à la tête.
Elle est super malade. Ouais, il y a comme un gros trou dans sa tête.
Oui, ça doit faire mal en est.
Non, mais t'imagines-tu s'il appelle puis il se vend immédiatement comme ça? Il est juste tellement niaiseux.
Il est un peu tweet.
Il est un peu tweet, non, OK.
Mais c'est aussi que j'ai comme compris qu'apparemment, Helen était retournée au travail probablement parce qu'il y avait trop de problèmes d'argent, parce que dans l'article, il n'est pas mentionné. Puis là, ça dit qu'il a appelé l'école où elle travaillait, fait que je déduis qu'elle a fini par retourner au travail.
Puis c'est vraiment terrible à dire, là, mais comme c'était pour te faire tuer par quelqu'un, c'est quand même moins pire de se faire tuer pendant que tu dors, tu t'en rends pas compte.
Au moins.
Tu sais? Oh. Qu'est-ce qui arrive à Jessly puis...
Si John a également contacté l'école de Justin pour les informer de son absence, la police ignore quand exactement celui-ci aurait été abattu. Selon la police, John aurait probablement attendu que Jonathan rentre de son corps de travail aux alentours de 3 heures du matin pour l'abattre.
Oh.
Puisque Wesley était parti très tôt au cégep et qu'il avait des cours toute la journée, il aurait probablement été abattu à son retour au domicile familial en soirée.
Mais ça, c'est pire!
Comme...
Parce qu'ils sont réveillés, ils le voient, t'as peur, c'est ton père que t'aimes, puis à qui tu fais confiance.
Oui.
C'est dégueulasse.
Le lendemain matin, soit le mercredi 19 septembre, John se serait rendu à l'appartement de Notre-Dame-de-Grâce de son beau-père avec son pistolet. Selon les éléments de la scène de crime, Elmer Carroll aurait été abattu alors qu'il était dos à John pour prendre son manteau dans la penderie.
OK.
Après avoir tué son beau-père, John aurait contacté l'employeur de celui-ci pour l'informer de son absence en raison d'un mauvais rhume. En après-midi, John téléphone à ses patrons, Alain Chaput et Lucio Beccherini, leur demandant de venir chez lui car il aimerait discuter d'une opportunité d'affaires avec eux. Toutefois, Chaput et Beccherini étaient en route pour jouer au golf et ont refusé l'invitation de leur employé. Bravo, le golf!
Mais pourquoi tu ferais ça?
J'en sais pas.
Mais c'est ça, moi je trouve ça complètement incompréhensible. Là, ok, t'as tué tout le monde dans la maison, là peut-être, je sais pas, c'est comme t'as pété une fuse, t'as fait une psychose, t'étais plus en contact avec la réalité, là t'as tué tout le monde dans ta maison. Là, après ça, tu t'en vas chez ton beau-père. Là, ça c'est de la méga préméditation, il y a tellement d'étapes là-dedans où est-ce que tu peux te dire « je voulais me suicider, c'était ça mon but là-dedans? » Ben c'est peut-être là que ça va arriver avant de sortir de chez nous. D'aller tuer d'autres mondes, d'appeler mes boss pour les convoquer ici, pourquoi tout ce monde-là a besoin de mourir aussi?
C'est comme...
Je comprends rien. Ben c'est ça, je trouve ça tellement étrange.
Dans le cas d'Emmanuel Carrère, on va se rappeler qu'il a aussi tué ses parents.
Il a tué ses beaux-parents aussi, il me semble.
Oui.
Oui, parce qu'il devait, ben, il devait de l'argent à tout le monde. Mais c'est la même affaire pour pourquoi il est allé tuer le pauvre Elmer Fudd, là.
Carroll.
Oui, non, je sais qu'il s'appelait Elmer Carroll.
Mais non, il y a les théories de la police après, parce que malheureusement, on peut pas interroger personne.
Ah.
Il reste personne pour les interroger.
Mais il reste M. Chaput. T'as pas parlé de lui tantôt.
Oui, il est encore là.
Je m'en rappellerai parce que j'aurais fait la joke de Chaput bonjour.
Jeudi matin, le 20 septembre, Lucio Beccherini reçoit un appel sur son cellulaire tandis qu'il conduit son fils à l'école.
Mm-hmm.
Il s'agit de John qui l'invite à nouveau à venir chez lui pour discuter autour d'un déjeuner.
Mm-hmm.
Beccherini accepte et, après avoir déposé son fils, il se rend chez son employé qui l'abat dans la cuisine aux alentours de 8h30.
Sacrement!
Ensuite, John vide des bidons d'essence à travers les maisons, allume plusieurs foyers d'incendie et se suicide d'une balle à la tête. On ne saura jamais exactement ce qui est arrivé à Helen, Lucio, Justin, Jonathan et Wesley. Après les avoir abattus, John a bougé les corps de ses victimes et les dommages causés par le feu et l'eau ont détruit les preuves et les éléments qui permettraient de faire une reconstruction exacte de la scène. Les seuls éléments qui demeurent sont des analyses des pathologistes, des entrevues menées auprès des proches de la famille et les lettres que John avait méticuleusement postées avant de passer à l'acte. Partie 7, une explication qui n'en est pas une.
Ah, cool, ok, parfait. Je m'attendais à rien de moins de ta part. À toutes les fois, t'es comme, je vais te l'expliquer, c'est quoi son problème? Mais il n'y a jamais d'explication qui me satisfait là-dedans.
Ben, au moins, je t'avertis. Tiens, je t'avertis, tu ne seras pas satisfaite. Bon, okay, fuck off.
C'est correct.
Quand Steve Bauer débute la lecture de la lettre que lui a envoyé son frère John, il croit d'abord à une blague. Au moment où tu recevras ceci, nous serons tous partis. Quelques lignes plus tard, Steve comprend la gravité de ce qu'il tient entre ses mains. Dans la lettre, John décrit en détail le plan qu'il compte mettre en branle pour exterminer sa famille, mais aussi le père de Helen, à qui il devait de l'argent. Il rassure également son frère que les enfants n'auront pas souffert.
Mais c'est pas vrai! Il y a deux de ses fils qui a tué quand il revenait du travail puis de l'école.
Ils ont dû avoir peur. Par la suite...
À moins qu'ils aient tiré en arrière de la tête, puis qu'ils l'ont pas vu, mais...
Au moins, Elmer Carroll, c'est comme ça qu'il est décédé.
Ouais.
Je trouve ça lâche aussi.
Mais c'est super lâche.
Mais tout ça, c'est extrêmement lâche.
Ben oui, mais je trouve ça super incompréhensible aussi. Pourquoi tu mettrais le feu à ta maison après? Tu penses-tu vraiment, dans toute ta grande intelligence de grand monsieur, là, toi, les arbitres, là, tu penses-tu vraiment que la police n'est pas capable de déterminer comment le monde sont morts si tu essaies de cacher ça avec un incendie que tu as parti toi-même avec l'essence? Puis que la police n'est pas capable de savoir que t'as parti toi-même l'incendie.
Puis que tous les corps retrouvés, ils ont une balle dans la tête.
C'est l'incendie qui leur a tiré dans la tête. Non, mais c'est parce que, je veux dire, on n'est pas en 1800 quelque, puis on comprend pas comment ça fonctionne, le forensic, là. On le sait, tout ça. On le sait que tu pourras pas faire un feu qui va brûler assez fort pour complètement tout détruire. Pourquoi tu mettrais le feu à ta maison après?
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas.
Ta banac. Voilà.
Par la suite, il explique la raison derrière son geste.
Ah ben ouais.
Selon les mots de Bauer, celui-ci n'en pouvait plus de vivre avec la pression de son état financier et que Helen était également inquiète pour l'avenir de la famille. Il écrit que ses fils avaient assez souffert comme ça et qu'il était déçu par ses prospects qui s'annonçaient de moins en moins reluisants. Je pense pas que ses fils y souffraient, là, je veux dire.
Ben c'est ça que j'allais dire, rien là-dedans qui m'indiquait ça, mais ok.
Je veux dire, comme il jouait à des sports, il allait à l'école, il avait des jobs.
Il y avait des consoles de jeux vidéo, là.
Puis je veux dire, je pense que c'est une leçon aussi de comme, gâte peut-être, vis donc pas au-dessus de tes moyens.
Ben non, mais 100%, puis je veux dire, c'est donc, ben, je comprends tellement pas ça. Je pense que s'il leur avait posé la question à ces gars, ils auraient préféré vivre avec un petit peu moins de luxe, plutôt que pas vivre pantoute.
C'est ça.
C'est donc ben niaiseux comme explication.
Prends une plus petite maison. Comme arrête d'acheter les consoles de l'année.
Ben ouais.
Les voyages de golf à Myrtle Beach, c'est peut-être pas nécessaire.
Non. Ils vont être heureux pareil, tes enfants, même s'ils n'ont pas de voyage à Myrtle Beach.
Puis en plus, je veux dire, le plus vieux avait une job, là. Il était capable de se payer des choses.
Ouais.
En tout cas.
C'est très bon, mec.
Toujours selon cette lettre, John Bauer aurait tué son beau-père parce que celui-ci n'aurait pas pu survivre sans eux.
Ben non!
Grâce à son acte, ben là, il s'assurerait que tout le monde vivrait ensemble, heureux, au paradis.
Oh tabarnak. J'avais pas pensé à cet aspect-là.
La lettre ne fait toutefois aucune mention d'un motif derrière l'assassinat de ses patrons. Selon les enquêteurs, il s'agirait probablement d'une décision de dernière minute, un acte de vengeance après que ceux-ci lui aient refusé sa demande pour financer une deuxième hypothèque.
Ouais, mais c'est pas... Ça faisait 2 jours que sa famille était morte. Ça faisait 2 jours qu'il vivait dans la maison avec les cadavres de toute sa famille.
Oui.
Quand il a essayé pour la deuxième fois d'appeler ses boss pour qu'ils viennent déjeuner chez eux.
Je sais, ça fait
c'est
pas de sens.
C'est pas une décision, tu sais, spur of the moment.
Non, il a réessayé, là.
La première fois qu'il dit non, là, ton boss, tu peux... Tu sais, tu regardes ton checklist dégueulasse de meurtrier, là. Puis là, t'es comme, tuer mes patrons, l'étape après, partir un feu, me tuer. Tu peux comme... On va passer à l'autre...
Mais il l'a corrigé parce qu'il avait mis me tuer, partir un feu, puis il a fait « Ah non, je
suis là. » Il se partira pas tout seul, le feu. Mais il vivait dans la maison avec les cadavres de sa famille pendant plusieurs jours.
Et moi, c'est le fait que comme...
C'est tellement dégueulasse!
Tu sais, il y avait deux de ses fils qui étaient déjà partis en plus le matin, là.
Oui!
Puis qui sont revenus.
Oui!
J'espère qu'ils ont pas vu... qu'ils n'ont pas vu leur mère puis leur frère plus jeune.
Non, ben ça doit pas parce qu'ils devaient être dans leur chambre. Ils les ont tués pendant qu'ils dormaient.
Ouais, ça dit qu'il a bougé les corps.
OK, ben c'est ça je me demandais aussi parce que j'étais comme, OK, puis là, tu sais, il est 3 heures du matin, t'as ton fils qui revient de... Mais c'est ça, son autre fils était déjà parti au cégep? On le sait pas, c'est ça l'affaire, on sait pas c'est quoi le timeline.
Le plus vieux, puis celui du milieu.
Ouais.
Celui du milieu était probablement déjà parti au cégep.
Ouais, mais pourquoi tout le monde dormait encore? Pourquoi sa femme dormait encore?
Le timeline est flou. C'est comme la police qui pense que ça serait ça, le timeline, mais comme...
On le sait pas.
Les corps ont été endommagés, fait que j'imagine que le coroner a pas été capable d'établir une heure de décès précise.
Mais c'est ça, je me pose la question.
Puis peut-être son plus vieux, je sais qu'il y avait une copine, il dormait peut-être chez sa copine ce soir-là, puis après il a été travaillé.
Oh! T'imagines-tu s'il était arrivé à la maison avec sa blonde? Oh, elle serait morte, elle avec!
Mais il revenait du travail quand même très tard, très tôt le matin, fait que j'imagine que les chances n'étaient pas là.
Ah, c'était épouvantable.
C'est... Comme ça fait pas de sens, puisqu'en plus, justement, ça a duré plusieurs jours, là. Les Family Annihilators, souvent, c'est comme un...
Ouais.
Un perte de contact avec la réalité, c'est instantané. Snap,
là.
Puis là, ça a duré 3 jours, qu'après, t'es comme, OK, maintenant, je vais aller tuer mon beau-père...
Mais tu sais, c'est comme... T'imagines, pendant ces 3 jours-là, là, tu continues de vivre normalement. T'as tué toute ta famille, puis après ça, t'es comme, « Ah, il est rendu 11h. » Tu vas aller te faire
un bol de gruau.
C'est ça, j'ai faim, mais aller me faire un bol de gruau. Voyons, c'est donc bien surréaliste. Je trouve ça épouvantable.
Comme, ça me dépasse. Ouais. Parce que, me semble, les Family Annihilators, souvent, c'est genre... Ils se débarrassent de tout le monde, ils se débarrassent d'eux, puis c'est fini.
Ils se débarrassent de tout le monde, puis après ça, ils se sauvent.
Oui. Ils vont se refaire une vie...
Ouais, ils essayent d'aller se refaire une vie.
Ils essayent de faire croire que c'était des hippies qui sont venus chez eux, tu sais, leur famille.
Jamais de la vie, c'est jamais arrivé, ça. Mais il y avait quelqu'un aussi, il y avait un autre cas aux États-Unis. Ben, je sais pas, moi j'ai entendu plein de cas de Family Annihilator parce que...
Mais il y en a beaucoup aux États-Unis.
Il y en a beaucoup aux États-Unis, puis il y en a beaucoup qui sont racontés dans Let's Go to Court. C'est comme la spécialité d'une des deux filles. Mais c'est ça, il y en avait un d'autre qui avait tué toute sa famille, ils avaient écrit ça en dessous du perron, là. Puis après ça, il avait juste disparu, puis il y avait comme une chasse à l'homme. Il était genre en Europe. Parce que c'était un Anglais, puis il vivait aux États-Unis, puis il était comme retourné dans sa famille, puis la police est allée... Ouais. Puis là, son excuse, qui était totalement dégueulasse. À moins que je mixe plusieurs cas ensemble, mais ça aussi, c'est arrivé avec l'affaire de Chris Watts aussi, qui a tué toute sa famille. Ouais. Là. Mais quand ils ont arrêté le gars en Angleterre, il était comme « Non, c'est pas moi, c'est ma femme. Ma femme avait tué mes enfants quand je suis arrivée chez nous. C'était tellement épouvantable. J'ai été obligée de tuer ma femme, puis de cacher tout leur corps en dessous du perron, puis de me sauver. »
Chris Watts,
c'est clairement pas ça qui est arrivé.
C'est un cas...
C'est dégueulasse.
Que je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont déjà eu cette sensation-là quand t'es tellement fâché que t'as l'impression que ta peau te fait mal.
Ouais.
Quand j'ai entendu cette excuse-là, là...
Ouh, c'est l'affaire la plus lâche, la plus dégueulasse.
Elle était enceinte!
Elle était enceinte, en plus.
C'est impossible.
Ben oui, puis elle est plus là pour se défendre parce que tu l'as tué.
Ben oui, hein? How convenient.
De trou de pète, en tout cas.
Bon,
fait que tout ça pour dire que son plan de Family Annihilator, là...
Il est whack.
Il était whack en tabarnouche. Puis c'est whack en général, Family Annihilator.
Exactement.
Je fais un verbe avec.
En entrevue à la radio, Alain Chaput déclare qu'il sent qu'il l'a échappé belle.
Ben là, oui.
Absolument que j'ai eu de la chance, une maudite belle chance. Ça aurait pu être moi aussi, mais ce jour-là, je devais me rendre à Québec. Merci, Québec!
Mm-hmm. Échappée belle, grâce à toi! Échappée belle!
Parfait pour moi!
Exactement.
Alain Chaput est toujours en vie de nos jours. Il est sur LinkedIn.
Hashtag God bless. Bravo, Alain Chaput.
Merci de ne pas le rejoindre. Je suis sûre qu'il veut mettre
ça derrière lui. C'est ça. Je pense que tout le monde qu'on mentionne, nos auditeurs, ils savent qu'on leur crisse patience.
Et là, j'arrive à ma conclusion.
Ah.
Point d'interrogation. Si la police considère qu'il s'agit d'une affaire classée, les proches de la famille Bauer, eux, n'en sont pas si sûrs.
Ah.
Selon Steve Bauer, le meurtre n'était pas une manière de se sortir du gouffre financier.
Ça ne l'est jamais, mais ça n'empêche pas du monde de faire ça pareil. Exactement.
Il aurait pu déclarer faillite, dit-il en entrevue avec Dreger. Il se demande si des usuriers, des membres du milieu interlope, n'auraient pas eu quelque chose à voir là-dedans. S'ils n'auraient pas menacé la famille, ou même exécuté la famille Bauer, je sens que toi et moi, on a la même opinion, mais je vais te demander de me laisser finir.
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Cependant, sans vouloir manquer de respect à Steve Bauer et à la mémoire de la famille, John Bauer aurait pu déclarer faillite. Oui. Mais pour faire ça, il faut accepter de se montrer vulnérable et d'admettre la défaite.
Ouais.
John Bauer, c'était un homme fier qui aimait flasher son cash.
C'est pas ça que j'allais dire, pas en tout.
OK. La faillite, ce n'était pas une option pour lui, parce qu'il aurait fallu accepter une autre perte de statut après avoir perdu son statut de Monsieur Labatte.
Mm-hmm.
Vas-y.
Et moi, ce que j'allais dire, là, c'est que je comprends parfaitement la dissonance cognitive du fait de ne pas être capable de réconcilier quelque chose de vraiment terrible qui a été fait par quelqu'un que tu pensais que tu connaissais, ouais. Tu sais. Mais si la mafia... si t'as une dette envers la mafia puis que la mafia veut avoir son argent, ils vont pas te tirer dans la tête. Ils pourront jamais mettre la main dessus.
Je sais,
tu sais, ils vont te kidnapper puis te couper un doigt ou whatever, tu sais.
Te péter les rotules.
Parce que je veux dire, s'ils tirent dans la tête, c'est certain qu'ils auront pas accès à... Ouais. Mettre une tête de cheval dans ton lit.
Ils vont aller à ta job te menacer.
Aussi.
Ils veulent leur cash, ces gens-là, là.
Eh oui, ils veulent pas juste tuer du monde pour tuer du monde, voyons donc. C'est une organisation légitime, la mafia, OK? Il y a des règles, là.
Il y a des règles.
Il y a un code d'honneur.
Puis, si vous avez pris des notes au début de l'épisode, vous avez sans doute compris que John Bauer appartient aux familles Annihilator de type anomique, ceux qui sont motivés par le statut et l'argent.
Ah, ben oui, c'est vrai.
John préférait la mort plutôt que l'humiliation. Mm. Pourquoi avoir tué sa famille en entier? Ben, selon moi, c'est pour que la vérité ne sorte pas.
Non, mais too bad for him, la vérité est sortie.
Voilà.
Mais si... là, si c'est pour que la vérité ne sorte pas, t'écris pas une lettre pour confesser...
Que t'es un pourri, un sale.
Que t'es un pourri qui a tout perdu son argent puis que c'est pour ça que t'es en train de faire ça.
C'est ça. Selon moi, John Bauer ne s'est pas suicidé ou a pas... go through avec son plan de se faire descendre par un tueur à gages digne d'un film des frères Coen.
Oui.
Parce que Helen aurait tout appris. Elle aurait vu comme toutes les... Il y aurait eu une enquête, puis elle aurait appris tout l'argent qu'ils avaient absolument pas.
Mais peut-être aussi que l'argent de son assurance-vie était même pas assez pour couvrir toutes les dettes qu'il y avait.
Peut-être.
Puis quand il a compris ça, il s'est dit « OK, mais ça marchera pas, le tueur en série. »
Oh ben, whoops.
Le tueur à gage, pardon.
Ah, oh, whoops, mon plan, il fonctionnera pas. Puis, ah oui, j'en parlais du milieu interlope. Est-ce que c'est possible que la famille Bauer aurait pu être victime de menaces de gens appartenant au milieu interlope?
Mm-hmm.
C'est possible, oui. Mais ces gens veulent être remboursés. Mm-hmm. Et la personne qui vous doit de l'argent, ben c'est pas exactement une bonne manière de se faire rembourser de la tuer. Dans le milieu interlope, le meurtre, c'est une manière de renverser la hiérarchie, de semer le chaos dans les rangs.
Mm-hmm. Ou de te venger des journalistes qui... Mais ça, c'est
qui
les...
Qui parlent de toi.
Mais ça, c'était l'opération Shark, ce n'était pas la mafia.
Parce que si vous pensez aux gens ou aux chefs de mafia qui ont été abattus sur la Rive-Sud...
Oui! Ah ben ouais.
C'était pour... prendre leur rôle au sein de la famille.
Ben oui.
C'était parce qu'une famille...
La famille
voulait prendre la place de l'autre famille.
Uh-huh.
C'est pour prendre leur place.
C'est la cosa nostra. Parce que c'est leur affaire!
C'est ça. Les meurtres dans le milieu interlope, c'est pour se débarrasser de quelqu'un de gênant.
Ouais.
Puis selon moi aussi, si Bauer avait emprunté...
C'est pas pour avoir de l'argent!
Non! Si Bauer avait... Puis tu sais, je dis quelqu'un de gênant, je pense pas que Bauer s'y avait emprunté de l'argent au milieu interlope, chose qu'on ne sait pas pour sûr. Puis je veux dire, milieu interlope, c'était peut-être aussi juste des petits prêteurs un peu sales. Tu sais?
Oui, ouais.
Comme il y en avait dans District 31. Jerry Bouton. Jerry Boutonnet!
C'est vrai, Jerry Boutonnet!
Le moi, une intellectuelle Gérard Bouton.
Gérard Bouton. C'est lui qui avait prêté de l'argent à Frédéric de Grand Prix, c'est ça? Oui. Ah, oh, nice, je me rappelle de ça. Ouais.
Que ça m'a pris vraiment longtemps à comprendre que c'était pas deux personnes.
Jerry.
Parce que Poupou, il disait tout le temps Jerry Bouton.
Jerry Bouton.
Là, je pensais que c'était deux personnes.
Ouais.
En tout cas. Fait que même s'il faisait affaire avec des petits prêteurs un peu sales, ces gens-là, là, c'est comme. C'est la pointe de l'iceberg du milieu interlope. Là, je pense pas qu'ils allaient comme voir des Hells pour leur prendre des valises de cash. Là.
Non, je pense pas.
Ils auraient pas pu aller à la police et dire « Ah, oh, j'ai des affaires sur la mafia. » Comme...
Non, ils auraient... Ben, ils auraient pas pu parce que... Mais la police fait pas ça, anyway.
Non.
Tu sais, je sais comme, ils auraient pas pu aller voir la police et dire « J'ai des infos pour la mafia, pouvez-vous rembourser mes dettes? » La police fait pas ça.
Non. Fait que c'était mon cas de John Bauer.
Ah ben, c'était fun.
The Family Annihilator.
Bravo.
Merci.
Il est bien tweet. Pas toi, mais lui. Il est bien cave.
Mais ça fait pas de sens.
Non, ça n'a pas de sens.
Je comprends toujours pas pourquoi il a battu son partenaire d'affaires.
Non, ça, ce bout-là, il a encore moins de sens. Mais peut-être que la clé du puzzle et la raison pour laquelle je n'étais pas capable de m'expliquer les affaires de même, c'est parce que je suis athée. Oh. Fait que pour moi, c'est comme on va pas tous se retrouver au paradis. Mais même ça, tu vas pas te retrouver au paradis avec ta famille si toi-même tu t'es suicidé et tu te ramasses en enfer.
C'est ça, moi je suis...
Ta famille va être au paradis, ils vont être corrects, eux
autres. Moi je suis catholique, puis comme si tu t'es tué toi-même, tu t'en vas en enfer.
Ouais.
Ça fait même pas de sens d'un point de vue...
Non, hein? D'un point de vue religieux non plus, ça a pas de sens.
Mais même sa manière d'agir, tout le long je lisais, puis comme, fallait toujours que j'aille revérifier qu'il était bien de l'Église catholique, parce que comme... Je suis comme ça, mais c'est un comportement de protestant, ça!
Tu veux dire qu'il buvait énormément?
Non, je veux dire comme le grind set, puis comme de vouloir accumuler de l'argent à tout prix, puis je veux dire...
Parce que c'est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer au royaume des cieux. C'est pas la première fois que je quote cette phrase de la Bible dans un de nos épisodes. L'avarice, c'est dangereux. Regardez ce que ça fait à Séraphin Poudrier.
Puis là, mais je veux pas insulter les personnes protestantes qui nous écoutent.
Qui sont riches.
Mais comme, c'est pas le mindset catholique d'agir comme ça. Puis, mais j'ai l'impression que Kirkland, c'est beaucoup notre version des WASP.
Ah ouais, pour vrai?
Ah oui?
Intéressant.
Ben, je veux dire, le West Island, pour moi, dans ma tête, c'est des WASP.
Ah ouais.
White American...
Anglo-Saxon Protestant.
Merci. Je me mélange tout le temps.
C'est les blancs anglo-saxons protestants.
Exactement, dans ma tête, c'est ça, mais faut dire Audrey Tabernac que tu dis de niaiserie.
Fait qu'en français, ça se dit BASP.
BASP.
Ah ouais, ça, c'est les BASP du BASP. West Island.
On dirait du monde dans Astérix. Oh non, les BASP!
Oh non, les BASP, ils s'en viennent! Ce serait quoi la fin de leur nom, tu sais, comme tous les Astérix, Obélix, tout ça, il y avait toujours une fin. Oh. Les Bretons, c'était comme, faut payer la taxe. Joli thorax.
Oui!
Ah, je trouve une fan d'Astérix. Je pense que j'avais jamais fait de bague.
Ah oh, oui!
Rintintin! Ah, oh, c'est bon! Tarte au tatin!
Patate au gratin! On tient quelque chose!
Oh non, c'est les BASP! Oh, merveilleux! Bon, ben merci beaucoup!
De rien.
Écoute, donne-moi rien!
Je te fais mon sourire de...
Ah! Merci à toi. Et merci à nos auditoristes d'avoir été des nôtres.
Oui.
Aujourd'hui, pour un énième épisode d'Un peu de crime dans ton café.
Yes.
Merci beaucoup.
89.
Si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous ne savez pas c'est qui qu'on est, vous pouvez aller découvrir c'est qui qu'on est. On est sur Facebook, @un peu de crime, et sur Instagram, @un peu de crime dans ton café. On a aussi une boutique Etsy et on a une merveilleuse communauté sur Patreon. On en a parlé au début de l'épisode. Mais donc, si vous voulez nous offrir un petit peu de soutien pécunier, vous pouvez le faire sur Patreon. Non! Audrey m'imait de soutenir ses seins. Non. C'est pas du soutien de brassière.
C'est pas
du soutien-gorge, c'est du soutien pécunier. Non, c'est pas un OnlyFans. Mais donc, on a une belle communauté sur Patreon. On offre divers tiers d'abonnements qui ont divers contreparties, comme des épisodes bonus. On vous offre 2 épisodes bonus maintenant par saison. On
et
en fait chacun
fine.
On est tellement fine. Puis on vous offre aussi...
Des épisodes pas d'annonce.
Puis des fois, des merveilleux vidéos où est-ce qu'on unbox des affaires.
Ou qu'on met des affaires pas bonnes dans notre face.
Ah oui, ça aussi, ça arrive. Quand on se fait offrir du café particulièrement particulier.
Exactement.
Oui.
Et là, on va remercier nos nouveaux Patreons. Alors, merci beaucoup, Alexandra Bourret-Dionne.
Merci, Caroline Lahaye. Il me semble qu'on t'a déjà remercié, mais on te remercie encore.
T'en remercie une autre fois.
Bye bye.
Merci, Caroline Bertrand.
Merci, Laurence.
Merci, Isabelle Bourque.
Merci, Pierre-Luc Paquin.
Merci, Sabrina.
Merci, Ariane Bernard.
Merci, Noémie Bernier.
Merci, Kim Dubé.
Merci, Élisabeth Fauché.
Oh, merci, Méliane Léveillé.
Oh, et merci, Lou Leblanc.
Yay! Merci beaucoup!
On espère que vous aimez vos nouveaux privilèges.
Oui, absolument! Parmi ces beaux privilèges, il y a une... Oui, parmi ces bons... Cette semaine, mes étudiants m'ont demandé pourquoi les gens des années 70 parlaient comme ça et quand est-ce qu'on a commencé à parler comme nous, et je n'ai pas encore trouvé la réponse.
Pourquoi les gens roulaient les R?
Mais, c'est pas juste ça. J'essayais de l'expliquer à mon chum, parce que moi, les accents, c'est quelque chose qui me fascine. Mm-hmm. Je disais, c'est pas juste les R, c'est la prononciation est plus dans le fond de la gorge que... Alors, aujourd'hui, nous allons parler comme ça, donc je vais vous déclamer un poème de Gaston Miron. Mais non, c'est ça. Fait que...
Fais donc!
Non, je ne peux pas. Là, à ce stade-ci, je peux juste... À ce stade-ci de mon enseignement de poésie, je peux juste faire des poèmes de Saint-Denis Garneau. Mais donc...
Tu peux y arriver.
Une partie des contreparties auxquelles vous avez droit sur Patreon, c'est accès à notre magnifique communauté Discord. Moi, je voudrais faire un shout-out à toutes ceux et celles qu'on surnomme nos amis dans notre poche.
Exactement.
C'est les amis dans notre téléphone. Notre communauté Discord est vraiment incroyable. Ils nous offrent beaucoup de soutien. Ça nous encourage beaucoup à continuer. Merci beaucoup. Les filles et les garçons, et les yels.
Exactement.
J'ai-tu bien dit ça? Oui. C'est que j'étais comment il manque un mot non binaire.
Les yels. Voilà. C'est les personnes les plus sweet de l'internet.
Mm-hmm.
Elles sont toutes là et elles attendent toutes de devenir votre amie à vous aussi.
Oui.
Dans votre pouf.
Et là, pour finir l'épisode en beauté.
Yes sir.
Audrey.
Yes.
Je vais te raconter dans ma voix de Gaston Miron.
D'accord.
Je vais te raconter. Cinquième rang.
Okay. Ça va nous prendre une petite musique de violon qui swing.
Ça, oui, c'est ça, j'allais dire. Ça doit être une petite musique country. Fait que là, on se demandait, on savait pas trop quoi raconter dans les deux minutes de stat. Fait qu'on s'est dit à la place que j'allais vous raconter un autre téléroman que j'ai regardé dans le Fever Dream qui était les premiers mois de mon congé de maternité. Où est-ce que, tu sais, faut que tu te lèves aux 3 heures, puis là, tu te lèves la nuit pour allaiter, puis t'as 2 heures dans le même trou, puis faut pas que tu t'endormes avec ton bébé dans les bras. Fait que là, tu regardes la TV! Fait que je regardais le cinquième rang. Fait que je vais te résumer plusieurs éléments pour mettre en place ce qui se passe dans ce petit village dont j'ai oublié le nom, mais qui s'appelait genre... Saint-Valois.
Ouais, non, d'accord. Même. Moi, je t'écoute en bougeant des bouts de foin.
OK. Fait que c'est l'histoire de la ferme Goulet et Filles. Ça, je m'en rappelle.
Oh.
C'est les 5 sœurs Goulet qui s'appellent toutes Marie quelque chose, qui run une ferme qui fait des produits bio.
Ça sonne pas comme une secte, j'aime ça.
C'est pas une secte, pantoute, c'est une ferme.
Je te crois.
Runnée par la... C'est comme... Comment on dirait, genre, la matriarche des sœurs, là? C'est comme la...
La sœur aînée.
La sœur aînée. Ben,
La sœur en chef.
La sœur en chef! La sœur en chef, c'est Maude Guérin!
Yes, okay? Sir! Bon. C'est toi, Maude Guérin.
C'est moi, Maude Guérin. Je me rappelle même pas comment elle s'appelle. Elle s'appelle... Il y a une Marie-Christine, une Marie-Louise, puis une Marie-Paul...
Casper.
Puis, en tout cas, il y en a 2 autres. Mais donc, ils sont comme 5-6, là, puis ils sont tous des Marie quelque chose. Puis là, ils runnent une ferme ensemble.
Marie 4-Poches.
Puis là, Marie 4-Poches, tiens, Maude Guérin. Marie 4-Poches runnait la ferme, surtout avec son mari. Son mari qui jouait le père à siffleur dans les pays d'en haut. Je sais, c'est bon, hein, c'est mes références. Et là,
les Français sont perdus.
Le père à siffleur dans les pays d'en haut, il disparaît. Puis là, Marie 4-Poches se dit, mais c'est normal, il part toujours sur des benders, puis là, il s'en va dans des parties d'aller chasser dans le bois avec son meilleur ami, François Papineau, qui habite à côté, puis qui run la ferme à côté. Là. Bon, c'est son ami de toujours, il part tout le temps, tu sais, dans un trailer pour aller comme boire de la bouse. Des fois, ils font venir des filles, puis tout. Puis, tu sais, Maude Guérin, elle n'est pas vraiment en super bon terme avec son mari. On voit que c'est comme quelqu'un qui est un peu troublé. Il a probablement eu de l'adultère dans le passé, mais comme elle a. Supporte tout ça parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup, puis bon. Puis là, ben, il est absent. Puis à un moment, ils sont comme, hey, peut-être qu'il a disparu. Peut-être qu'il est pas juste parti volontairement se cacher dans... Non, mais tu sais, il a fait le tour, là, des trailers, puis des caravanes, puis des caches de bois.
Yo, mon mari!
Avez-vous vu le père siffleux? Puis là, elle fouille partout, et tout à coup, elle va voir la police. Puis là, il y a juste un policier, parce qu'en fait, c'est comme... C'est la police locale.
Oui.
Fait que...
Il y a 10 personnes à gérer.
Oui. Fait qu'il y a la police locale, puis sa sympathique secrétaire qui s'appelle Gladys. Puis... Gladys, c'est comme la wannabe police qui a comme pas fait l'école de police, mais qui est une police plus compétente que le vrai policier.
Classique.
C'est classique personnage. Fait que là, il commence à enquêter, où c'est qu'il peut bien être, le monsieur, blablabla. Puis là, un soir,
okay.
La fille a Marie Quatre Poches.
OK.
Puis son neveu, qui s'appelle Simon Pigeon. Fait que la fille et Simon Pigeon s'en vont se promener dehors, puis là, la fille est toute inquiète. Puis comment on va aller fumer un joint pour se déstresser de l'absence de mon père, quand tout à coup, ils sont sur le bord du pit à cochon, là.
Le pit à purée?
Non, ben comme le pit à boîte des cochons.
OK.
Puis là, ils sont comme, coudonc, qu'est-ce que les cochons, ils font tous dans le milieu du pit à boîte de cochon? C'est le milieu...
Ils ont succombé c'est à le milieu la laitue du démon.
ils ont succombé au jambon du démon. Puis là, il réalise qu'en fait, c'est parce que le papa disparu.
Il est là.
Il est dans la fosse à cochons en train de se faire manger par ses propres cochons depuis on sait pas combien de temps! Parce que ça faisait genre 3-4 jours qu'il était disparu, là! Puis ça, c'est de même que ça commence, cinquième rang.
Wow.
C'est incroyable, hein? Qui a tué le monsieur? A-t-il été tué?
François
Papineau. Était-il trop saoul? Est-il tombé à pleine face dans son champ à purin?
Ça arrive.
Ça arrive. Puis là, tu tombes à pleine face parce que t'es trop saoul, tu t'étouffes dans la boîte, tes cochons te mangent. Story of my life.
Monday.
Ça arrive à toutes les deux Mondays.
C'est
une affaire, c'est super évident. Ça arrive à toutes les deux minutes. Fait qu'il y a-tu quelqu'un qui l'a tué? Pourquoi l'aurait-il tué? C'était juste un bon père de famille qui aimait aller boire de la...
Épouner.
Des quilles de Molson tablettes dans le bois...
Comme tout bon
en tirant des chevreuils quand c'est pas la saison de la chasse, ça. C'est juste... c'est super legit. Donc, qui a fait ça au pauvre père à siffleux?
Oh.
Je vais vous le raconter une autre fois.
Oh yeah!
Oh yeah! Fait que c'était le début de cinquième rang.
Ah oh, ben merci, je vais retourner faire mes foins.
Ah, t'es joint ou t'es foin?
Mes foins!
Ah ok, j'étais comme...
Je ne succomberai pas à la laitue du démon!
Non, du tout! Moi, je vais retourner...
salade de Satan!
Passer le balai dans ma grange, je sais pas... Je sais pas. Je sais pas ce qu'on fait sur une ferme, honnêtement. Je suis trop une personne de ville, là.
Exactement.
On va aller faire ça.
On va aller faire des foins, I guess.
OK, aïe.
Flatter des poules.
Compter les poules pour être sûr qu'ils sont toutes là encore. Ça, c'est important,
c'est important.
Mais ils font ça à tout bout de champ dans le livre de compte de la ferme de mon enfant. Ah. Faut toujours compter les moutons, parce qu'il y en a toujours un maudit qui se sauve.
C'est
tout le temps
noir.
Ouais!
Pourquoi je l'ai dit de même? Je m'excuse pour la manière que ça l'a sonné.
C'était effrayant! Fait que, ouais, c'est ça qui se passait dans le cinquième rang. Fait que c'est peut-être le nouveau téléroman que je vais te compter avec. Puis là, c'est comme, mon fils, il a bientôt 2 ans, là. Fait qu'il y a des affaires qui s'estompent dans ma tête.
Oh non.
Je vais vous compter ça avec le plus de détails possible. Écoute. Mais comme, à un moment donné, j'ai moi-même débarqué parce que c'était trop rendu un fever dream. Il y avait comme... Spoiler, il y avait genre la mafia dans le petit village. La mafia de l'agriculture dans le petit village. Écoute, c'était rendu.
C'est pas
comme...
la mafia, c'est le mafouin.
Hey, how dare you?
Demain.
C'est sérieux, ça. C'est sérieux, la mafouin, ok, on rit pas. Bon, fait que. Au lieu de dire stat cette fois-ci, on peut dire yeehaw, partner.
Yeehaw!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.